Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Cinérama.
Oui.
Cinérama.
J'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test. Blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler cinéma, une demi-heure pendant laquelle nous allons jouer à un blind test autour de la filmographie des frères Cohen, qui ne sont pas tout à fait séparés, mais il y en a un qui a fait son film tout seul, Sophia.
Oui, Ethan Cohen, du coup, a réalisé Drive Away Dolls, dont je vais vous parler.
Quant à toi, Guillaume, tu as parlé d'un remake.
Oui, nous allons sous le soleil très pesant du remake du Salaire de la peur.
Quant à Manu, eh bien, il a voulu parler d'une suite, quatrième épisode de la saga Kung Fu Panda. Mais nous allons débuter avec un professeur qui est accusé à tort par une de ses élèves de vouloir la séduire. Et c'est l'engrenage, nous parlons de Pas de vague.
This is Cinérama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
On a parlé de séduction, qui passe par la flatterie. Par exemple, avec cette nouvelle coiffure, Leslie est particulièrement en beauté aujourd'hui.
Après Un métier sérieux de Thomas Litli en 2023, le film allemand La salle des profs et le film hongrois L'affaire à Beltrem, deux films d'ailleurs dont tu as parlé, Sophia, il y a peu, eh bien, le monde enseignant est au cœur de récits exploités par le cinéma. C'est aussi l'entreprise de Teddy Lucie Modeste qui a l'avantage d'être réalisateur. C'est son troisième film et puis également enseignant. Pour faire simple, il est parti d'une histoire qu'il a lui-même vécue dans un établissement à Aubervilliers, celle d'être accusé à tort par une élève de vouloir la séduire. C'est précisément ce qui arrive à Julien Keller dans un collège d'une ville non identifiée, un enseignant qui professe le français à des élèves offrant la diversité, celle des origines et des niveaux. En voulant partager la vision de Ronsard, le jeune prof va vouloir faire comprendre la figure de l'astéisme. Perso, je ne savais pas ce que c'était. Celle-ci consiste à louer une personne en feignant de la blâmer. Alors pour illustrer cette figure, il prend pour exemple une de ses élèves introverties et studieuses. Alors pour elle, eh bien c'est le signe de trop. La voilà qui, après ce cours, rédige une lettre dans laquelle elle indique que son prof cherche donc à la séduire. Lui en tombe de son bureau. Il commet peut-être deux erreurs. Hein. L'une d'entre elles est d'avoir payé des kebabs à certains de ses élèves qu'il estimait méritants, dont la prétendue victime. Et puis l'autre de ne pas avoir tout de suite révélé qu'il était homosexuel, ce qui aurait vite fait d'annuler toute ambition de séduction.
Tu pourrais passer me voir?
Un problème?
Non, rien de grave, mais passe me voir après.
Du harcèlement?
Il a dit qu'elle était fraîche.
Mais oui, Leslie, enfin, je parlais de l'eau.
Sauf qu'il l'a dit en me regardant dans les yeux.
Et les élèves entrent et sortent de la classe, entrent et sortent du collège, on n'a jamais le temps de leur parler. C'est pour ça que j'ai pris le risque de sortir du cadre.
Et vous pensez que c'est à vous seul de le régler, ce problème?
Une fois posés ces éléments dramaturgiques, le récit peut avancer sous forme de crescendo qui fait apparaître le film eh bien, sous des airs de presque thriller, hein, entre le frère de la victime violent qui se montre menaçant, les collègues dont certains ont un peu de difficulté à le soutenir, le principal du collège qui choisit de ne rien faire, c'est de lui que vient d'ailleurs l'expression « pas de vague hein, » du titre, et le rectorat forcément aux abonnés absents. La charge est lourde hein, pour l'éducation nationale. On cherchera les raisons des allégations de la jeune collégienne. Bien que ne la blâmant pas, le réalisateur ne va pas éclairer son comportement. Alors c'est peut-être là que le film est attaquable. Hein. Il y a dans Pas de vague qui repose sur la propre histoire de son réalisateur comme la volonté de rendre des coups en se recentrant sur les répercussions de ses accusations mensongères sur la vie donc, de ce jeune prof un peu idéaliste.
Il se comporte mal avec ma sœur. Vous trouvez ça normal?
Écoutez, son frère m'a explicitement menacé de mort.
Mais qui va te protéger? Ton directeur? Ton école, là, le rectorat qui répond même pas au téléphone?
Il y a des parents d'élèves qui veulent interpeller la presse.
Si tu mens, Leslie.
Enfin, nous, on prend des risques en faisant confiance.
Je te tue.
Vous arrêtez les téléphones!
Là, ça va trop loin.
Et si c'est le prof qui ment, je le tue aussi.
Monsieur Keller, pas de vague. On va pas prendre le risque que ça monte dans les tours.
Parce qu'on n'est pas déjà dans les tours, là?
Cependant, on peut difficilement reprocher à Teddy Lucie Modeste qui dit combien il doit beaucoup à l'école, hein, lui qui est issu des gens du voyage, bien sa description d'une administration qui doit faire de grands écarts entre le soutien aux professeurs et les courbettes aux parents. Il montre également, mais là plusieurs faits divers lui donnent raison, le manque de réaction des établissements scolaires face aux nouvelles menaces qui planent sur les enseignants, qui peuvent très vite alimenter d'obscurs comptes de réseaux sociaux. Il montre l'union comme la désunion parmi les collègues, ce qui s'aperçoit dans n'importe quelle entreprise, et comment aussi il est difficile de tenir bon face à la calomnie. Le film oscille entre volonté de rapporter fidèlement une situation, moment de respiration et constat d'un échec, le rectorat n'étant plus capable de recueillir la parole des victimes et pas plus que d'aider le corps enseignant. Le film reste toujours proche de l'identification au personnage principal, de quoi amener la tension jusqu'à son terme. Même si le réalisateur décrit bien un engrenage aussi absurde que vivace, il n'exempte pas totalement son personnage qui, bon, est quand même coupable d'une certaine naïveté ou d'insouciance. À noter d'ailleurs que la prestation de François Civil est plutôt remarquable. Pas de vague donc de Teddy Lucie Modeste est en salle depuis le 27 mars. On n'a jamais vu les frères Dardenne ou les frères Larieux se séparer, mais les frères Farrelly, les sœurs Warshawski l'ont déjà fait, et c'est arrivé donc aussi aux frères Cohen. Nous parlons de Drive Away Dolls.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
La mallette, Santos.
Jamais de la vie.
Difficile de définir Drive Away Dolls, le dernier long métrage réalisé par les frères Cohen, divisé par deux. Ethan Cohen nous propose un road movie carrément barge où l'on retrouve les tropes du cinéma des deux frères avec quelques prises de distance notables. Trash, pop, coloré, fun, actuel, daté, sont autant de qualificatifs qui peuvent venir à l'esprit. Ethan Cohen apparaît comme le rigolo des deux frères hein, quand son frangin Joël, l'autre moitié du duo iconique, est occupé à faire des adaptations shakespeariennes du Macbeth. Ethan persiste ici, pour sa première réalisation filmique en solo, dans une certaine idée du registre cohenien défini par des succès comme Fargo, le Big Lebowski ou encore Burn After Reading, pour n'en citer que quelques-uns. Registre donc caractérisé par une comédie d'action ironique et anxieuse qui confronte deux mondes. La normalité du réel d'un côté et de l'autre des criminels un peu gauches, voire tout bonnement incompétents. Ici, Ethan Cohen adopte pour la première fois un point de vue féminin, incarné par un duo de deux copines lesbiennes, l'une délurée, c'est Jamie qui vient de vivre une rupture, l'autre plus farouche, c'est Marianne qui a besoin de souffler un coup.
J'en ai ras-le-cul de l'amour, j'ai pas l'impression que ça convienne aux lesbiennes du 21e siècle.
Pas question que tu portes ça.
Je viens de sortir du boulot.
Moi j'arrive de Toledo et ça se voit pas pour autant.
Je suis pas là pour exhiber la marchandise.
Je quitte la ville.
Ça tombe bien parce que moi aussi, tu veux aller où toi?
T'as là assis en Floride. Ça fait longtemps que je suis pas heureuse.
Cette virée, on va la faire ensemble, mon petit cœur. On va se reprendre en main à quatre mains.
Curly Convoyage, votre référence pour la livraison de voitures en Pennsylvanie.
Ce cher Curly.
M'appelez pas Curly.
C'est pas votre nom ?
Je m'appelle Curly, mais on se connaît pas. Pas de familiarité.
Les deux comparses prennent donc la route, comme exutoire, direction Tallahassee, où vit une tante de Marianne. Pour ce faire, elles font recours au service de Drive Away Cars, qui permet, au lieu de louer un véhicule, de récupérer une voiture qui a besoin d'être convoyée d'un point A à un point B sur le territoire et de le faire gratuitement. Il se trouve que chez le convoyeur, un véhicule a justement besoin d'être conduit jusqu'à Tallahassee. C'est le début du périple des deux jeunes femmes sur la côte est des États-Unis jusqu'en Floride, dans une voiture dont elles ignorent qu'elle transporte en fait une cargaison convoitée par une cohorte de malfrats.
On vient pour la voiture. Attendez, vous avez demandé une livraison à Tallahassee. Et là, ces deux gonzesses ont débarqué en disant qu'elles allaient à Tallahassee. Elles se chargent de conduire à votre place. Ça vous embête ?
Ça se pourrait, si elles tombent sur les colis.
Tout ce qu'on veut, c'est retrouver vos amis. Tu sais pas parler aux gens, ce qui dans la prestation de service peut être vachement handicapant.
Ils vous ont retrouvé les deux tailles ?
Ils savent qu'on a leur bazar. On peut peut-être leur revendre les plumés.
On peut se demander si cette première intrusion du cinéaste, seul ou avec son frère d'ailleurs, hein, du côté des femmes, permet un cohénisme compatible avec des personnages féminins, s'il sait s'accorder d'un female gaze. Et cette question du female gaze est loin d'être anecdotique ici pour ce film qu'Ethan Cohen a co-scénarisé avec sa femme, Tricia Cook. On est curieux de voir ce qu'une telle entreprise peut donner, puisque dès le début, hein, dès le film Arizona Junior en 87, on a quand même toute une série de réalisations signées Cohen, marquées par la peur des femmes et la peur du sexe. Là, dans Drive Away Dolls, on a très exactement les deux. C'est non seulement un film avec un point de vue situé du côté des femmes, un film sur des femmes lesbiennes et sur leur sexualité, qui est toujours le sujet de bout en bout dans Drive Away Dolls. Certains avaient théorisé, dès les années 90, une forme de peur de l'enfantement chez les Coen, où le sexe représente souvent un piège, avec des personnages comme le Dude dans The Big Lebowski, avec Julianne Moore qui voulait absolument avoir un enfant de lui, ce qui générait une phobie du sexe récurrente dans toute leur filmographie. Ethan Coen ici rend la sexualité drôle, peut-être par pudeur, peut-être par dégoût. En tout cas, il rompt clairement avec la tradition du roman et du film noir dans lequel on a des femmes fatales, vénéneuses, complexes, débordantes de désir, mais qu'on ne retrouve pas du tout dans le standard post-noir des Coen. On a ici donc des dykes filmés de manière assez caricaturale, à l'instar de l'accent à couper au couteau de Margaret Qualley, qui joue très bien et qui est très bien castée, cela dit, au même titre que Géraldine Viswanathan qui lui donne la réplique. Il apparaît pourtant que pour filmer des femmes, Ethan Coen a presque besoin d'en faire des hommes, tout en les traitant moins bien que ses personnages masculins. C'est comme s'il n'arrivait pas à leur amener de la profondeur. On a des personnages qui restent du coup assez plats et obsédés par l'ego de Miché, disons-le, desquels ressort peu de ce qui habituellement enrichit délicieusement les protagonistes coéniens, à savoir une anxiété existentielle, des angoisses qui remontent à l'enfance, les doutes dont ils sont pétris. Au final, c'est rigolo, mais on a un peu l'impression d'être devant un film de boomer, un film un peu suranné, un film de slacker des années 90 avec des références aux années 70. Avec, comme dans Fargo d'ailleurs, un montage alterné qui nous fait aller et venir entre les gentils d'un côté et les méchants bandits pas très effrayants de l'autre, des plans ponctués par des transitions très loufoques, avec des écrans qui pivotent sur eux-mêmes, accentués de bruitages farfelus. Alors pourquoi pas, mais ce type d'artifice ne fluidifie pas tellement la lecture, d'autant plus lorsqu'il donne lieu à des interludes psychédéliques, franchement ringards. On a l'impression d'avoir des hallucinations perchées sous LSD, qui nous expliquent la genèse de la cargaison que transportent les deux copines. Heureusement que les lignes de guitare de John Frusciante rendent tout ça un peu plus digeste. Peut-être que vous aimeriez aussi en dire un mot, vous qui l'avez vu.
Je ne sais pas, peut-être Guillaume, oui.
Moi j'ai beaucoup aimé. Alors sans atteindre les sommets des frères Coen, mais justement moi j'ai retrouvé un petit peu le côté léger que j'aime énormément d'Arizona Junior, qui est pour moi l'un de leurs meilleurs. On sent que le véritable esthète visuel, c'est l'autre frère qui est parti justement faire l'adaptation de Macbeth, que j'ai trouvé absolument dingue il y a deux ans. Mais même si pour moi, il manque 20 minutes de développement de personnages et d'intrigue, parce que le film, il faut le dire, il est court, je crois qu'il fait
1h24.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment très peu. Je pense qu'il y aurait eu ces 20 minutes en plus qu'il y a d'habitude chez les Coen. On aurait pu avoir un espèce de road movie un peu plus velu. Quoi.
Ouais.
Ouais, moi, c'est le seul... Ce truc qui me gêne un peu, parce que après, j'ai bien aimé le côté un peu outrageux volontairement du film.
Très désinhibé.
Moi aussi. Alors, en plus,
vous n'êtes pas prêt pour le MacGuffin.
Et en plus de voir cette sexualité à l'écran, elle est très rare chez les Coen, elle est très rare chez Soderbergh, et à chaque fois qu'elle est montrée, ça en fait quelque chose. Par contre, je n'avais pas la même lecture que toi. J'avoue que moi, ça ne m'a absolument pas gêné, parce que c'est complètement désinhibé, et voilà, je trouve ça plutôt joyeux finalement. Voilà, il y a un des personnages qui est plutôt joyeux, l'autre qui est plutôt taiseux. Enfin voilà, c'est comme ça que se construit le film. Et puis j'ai bien aimé aussi le petit côté, on pousse les curseurs de ce qui faisait le plaisir de Fargo, parmi les malfrats qui effectivement sont des bras cassés. Enfin voilà, là il y a quelque chose qui se passe avec les seconds rôles, notamment le rôle de Matt Damon. Alors il joue très peu, mais je trouve ça très bien écrit. Enfin voilà, il y a des petits plaisir comme ça, je trouve, dans ce film.
C'est vrai. Et moi aussi, je les retrouve, ces plaisirs-là, chez les personnages masculins plus que chez les deux nanas qu'on suit pourtant de bout en bout. D'où l'intérêt peut-être des 20 minutes supplémentaires de métrage.
Alors, ce film, Drive Away Dolls, nous donne l'occasion donc de jouer un blind test où il va falloir bien trouver des films de la filmographie des deux frères Coen. Allez, premier extrait.
Je veux juste que tu me prouves que t'es un ami en m'offrant Bernie Birnbaum. Tu sais que j'ai raison de vouloir le tuer. Ce Youpin est en train de m'arnaquer. Je peux pas laisser Léo lui offrir un parapluie neuf.
Alors l'idéal, c'est que je bute Bernie, je m'arrange avec Léo et tu me dédouanes avec Lazare.
Ouais, et on redevient tous des amis. Toi, moi, Léo, le Danois.
On pourrait même prendre le thé, un de ces quatre.
Allons, Eddie. L'amitié, c'est un état d'esprit. Qu'est-ce t'en dis,
Faut que j'y réfléchisse.
Faut qu'il y réfléchisse. T'entends le Danois ? C'est un grand penseur, c'est pas merveilleux ?
Est-ce qu'il veut un oreiller pour être à l'aise ?
C'est trouvé.
C'est Miller's Crossing ?
Oui, c'est comme ça que... Bon, c'est pas tout comme ça que tout a commencé. C'est le troisième film, sorti en 90, avec Gabriel Byrne, à l'époque de la Prohibition. Le gangster Tom Regan, bras droit d'un caïd irlandais, trahit et manipule son entourage, utilisant à ses propres fins, même par la violence, afin de se faire une place. Film remarquable, 141 000 spectateurs en France. Deuxième extrait.
Je te laisse la camionnette. Je prends la Syrah. On la partage. Et tu la partages comment, la bagnole, hein, gros débile, avec une putain de tronçonneuse?
Il y en a un des deux qui paie à l'autre la moitié de ce qu'elle vaut.
Attends, ça, putain, jamais. T'as vu ça, connard? J'ai pris une balle, putain. J'ai pris une balle dans la gueule. J'ai été chercher ce putain de pognon et j'ai pris une balle dans la gueule. Merde, je suis debout depuis 36 heures, putain de Dieu. Et je prends cette putain de voiture, cette bagnole est à moi, espèce de putain d'enculé. Je me farcis des conneries depuis une semaine. On est quitte ?
Alors, ah, ça coince. Je pensais pas que ça coincerait finalement, parce que je pensais que c'était assez emblématique de ce film qui met aux prises. Donc, ben, on parlait des fameux truands qui étaient un peu bracassés. Et donc, bon, c'est un film. Alors, si je donne l'indice d'une enquête policière menée par une femme.
Fargo.
Voilà, Fargo, dans le froid.
mais l'habitude c'est de le Fargo. Voir en VO. Il y a une telle poésie.
S'il y avait eu la voix de Frances McDormand, peut-être qu'on aurait eu un petit tilt.
Eh oui, mais là, ça n'aurait pas donné les mêmes dialogues.
Non.
Donc, un vendeur de voitures d'occasion endetté fait enlever sa femme par deux petites frappes afin de toucher la rançon qui sera versée par son richissime beau-père. Mais rien ne se passe comme prévu. 623 000 entrées en France pour ce film Fargo de 1996. À noter que pour ce blind test, hein, j'ai pris des films dans l'ordre chronologique. Donc, c'est un peu pour vous aider. Donc, le suivant, c'est un film après Fargo.
On n'a pas besoin d'urne, on disperse les cendres.
Oui, nous en avons été informés. Mais vous comprendrez bien que nous sommes obligés de vous remettre les cendres dans un réceptacle.
À 180 dollars ?
C'est ce que nous avons de meilleur marché comme réceptacle.
Mais vous êtes sûr
180 dollars ?
Ça peut aller jusqu'à 3000 dollars et plus.
3000 dollars ? Mais vous pouvez pas nous la louer juste pour l'après-midi ?
Nous sommes à un funérarium. Pas une agence de location.
Puisqu'on vous dit qu'on disperse les cendres,
Walter, reste...
C'est pas parce qu'on est de la famille du défunt qu'on va se faire arnaquer.
Messieurs, veuillez éviter d'élever la voix.
Bon, vous n'auriez pas autre chose pour le mettre, non?
Mais je vous l'ai dit, c'est l'urne la moins chère sur le marché, vous l'aurez pas mieux.
Bon Dieu de merde!
Ça a été trouvé parce qu'il y avait quand même pas mal d'indices.
C'est The Big Lebowski.
Oui, et on entend les voix françaises de Jeff Bridges et John Goodman. Film de 98, Jeff Lebowski, prénommé le Duc, hein, qui passe son temps à ne rien faire ou jouer au bowling, eh bien, est passé à tabac, car il est pris pour un homonyme richissime. Il va tenter d'obtenir un dédommagement. 730 000 entrées en France pour ce film devenu culte des frères Cohen. Quatrième extrait de ce blind test.
Rien de tel que ces murs de terre pour mettre en valeur toute la tessiture du luth ou de la sacbute.
C'est pour cela que toutes ces musiques du Cinquecento étaient souvent données dans des cryptes et des catacombes. C'est l'idéal. C'est parfait. C'est plus que parfait. J'ai du mal à contenir ma joie.
Oh, vous la contenez très bien.
Ah, vu les têtes qu'il y a dans le studio, ça n'a pas été trouvé.
C'est pas Inside...
C'est The Barber.
Alors, je sais pas si vous avez reconnu la voix française de Tom Hanks.
Ah, alors c'est Lady Killer.
Oui, qui a été un coup de pouce sérieux pour ce film, puisqu'il a recueilli 1,2 million d'entrées en France. Ouais, et c'est malheureusement, sans doute un des plus gros succès.
C'est quand même très très loin de la qualité du film dont il s'inspire.
Eh oui.
Tueur de dames.
On aurait pu le mettre dans un blind test remake. Film de 2004, le docteur Higginson Dore réunit un gang d'experts pour accomplir le casse du siècle et le QG de ce casse, eh bien c'est la cave d'une vieille femme, et ils vont devoir intégrer la vieille femme dans le casse parce qu'elle découvre ce qu'ils veulent faire. Dernier extrait de ce blind test consacré à la filmographie des frères Cohen.
À vous de jouer, annoncé.
C'est-à-dire qu'il faudrait que je sache ce qu'il y a à gagner.
Tout.
C'est-à-dire?
Vous avez tout à gagner, annoncé.
D'accord. Face, alors ?
Bien joué. La mettez pas dans votre poche.
Hein ?
Pas dans votre poche, c'est votre porte-bonheur.
Mais où vous voulez que je la mette ?
Surtout pas dans la poche. Sinon, elle se mélangerait aux autres et ce serait plus qu'une pièce de monnaie. Ce qu'elle est.
Ça a été trouvé.
C'est No Country for Old Men, ou non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, comme il était marqué sur l'affiche française.
Eh oui, eh oui. Et au Québec aussi. Et là, c'était une séquence qui dure alors beaucoup plus longtemps. J'ai dû évidemment la raccourcir, mais c'est une séquence mémorable de ce film. Il y avait plusieurs indices. Et c'était Javier Bardem, la voix française de Javier Bardem. Dans ce film avec aussi Josh Brolin, adaptation du roman de Cormac McCarthy. Un homme arrive après un bain de sang et prend une mallette remplie de dollars. Il déclenche une réaction en chaîne de violence qu'un vieux shérif va tenter de contenir, mais en vain. 962 000 entrées pour ce film que je trouve le plus remarquable des frères Coen, parce que moi, du début à la fin, je suis absolument pris en tant que spectateur. Même sans parler de qualité formelle ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment là, pour le coup, un vrai plaisir de spectateur. Et c'est pour ça que je voulais terminer avec ce film de 2007 pour ce blind test consacré à la filmographie des frères Coen, puisque nous parlions, Sophia, de
Drive Away Dolls.
En salle depuis le 3 avril. Même pas peur pour Netflix qui a produit un remake du Salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot. C'est de ce film dont nous allons maintenant parler.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
On a une poche de gaz sous le puits qui alimente l'incendie. Le seul moyen de l'éteindre, c'est de la faire exploser.
Il n'est jamais flatteur de tirer sur une ambulance, mais dans le cas que nous allons évoquer, il y a quand même un petit détail qui fait toute la différence. Il semblerait que les producteurs, scénaristes, réalisateurs et acteurs se soient donné le mot pour que ce que vous voyez soit parfaitement détestable. Car oui, le Salaire de la peur version 2024, c'était bien évidemment un suicide annoncé, une cautérisation à l'essence, une émasculation au couteau à huître, un vol de planeur dans une forêt pendant une éclipse, bref, une ânerie sans nom, un échec annoncé et une interrogation qui subsiste. Car oui, qui a validé ce projet et s'est dit à un moment donné que ça pourrait être bien ?
On aimerait que vous rameniez cette nitro jusqu'ici en camion.
Alors avant qu'on m'avance, l'argument du « mais oui, les jeunes ne voient plus de films en couleur, c'est bien de les attirer à des classiques en leur proposant une version modernisée », je répondrai tout d'abord que c'est toujours une source d'échec. Rappelez-vous le remake de Psychose par Gus Van Sant pour mesurer l'inutilité du concept vu le bide qu'il a fait au box-office. Et que non, un traitement Reader Digest ou une version pré-mâchée avec morceaux choisis n'a jamais donné de lecteur intelligent. Alors l'ironie principale vient du fait que, oui, le Salaire de la peur peut être remaké ou réadapté d'après son livre d'origine. Alors entre de bonnes mains, comprendre celle d'un auteur avec un minimum de vision, ça peut donner Sorcereur ou Le Convoi de la peur de William Friedkin dans son titre français d'origine, un autre chef-d'œuvre tout aussi adulte, froid, nihiliste et sans cesse palpitant. Alors le problème, c'est que l'affaire a été confiée à Julien Leclerc, monsieur action du cinéma français, mais véritable endive dès qu'il s'agit de découper un mouvement, chorégraphier un déplacement ou penser la géographie de sa mise en scène. Ce qui, en soi, sont les mamelles absolues d'un bon film et d'un bon film d'action. Alors, nous avions déjà grincé des dents devant les résultats assez médiocres de Chrysalis, Lasso, Lucas ou Gibraltar, et il allait être difficile de faire en sorte que la configuration de production mise en place par Netflix change la donne. Les spectateurs se doutent qu'ils retrouveront tout ce qu'ils aiment ou redoutent dans une production du géant du streaming, à savoir une photographie lisse, un scénario codifié à l'extrême, des enjeux plats et de l'action bouche-trou pour pallier une quelconque vision artistique pertinente. Et c'est bien ce que l'on retrouve avec ce Salaire de la peur 2024. Une lénification de tout ce qui faisait le sel de l'œuvre originelle.
Vous avez un peu plus de 24 heures pour éteindre l'incendie.
Et pourtant, il y avait une idée pas trop mal au départ, de faire en sorte que deux des quatre protagonistes devant prendre le contrôle de camions remplis de nitroglycérine pour accomplir une mission quasi-suicide, soient deux frères ennemis. Suite à ce que l'un a vécu pour une trahison, il y avait la piste d'une rédemption entre les deux, d'un lien qui se resserre à nouveau au fur et à mesure que la tension monte. Le fait est également que l'un des deux ait une relation avec la quatrième conductrice aurait pu augmenter de façon poignante les sacrifices qu'il aura immanquablement à faire sous la route. route, hein, mais ces promesses ne sont jamais développées en raison de la nullité crasse, hein, du traitement de ces personnages et donc du jeu inexistant de leur interprète. Alors au milieu, il y a bien le sympathique Alban Lenoir, hein, qui essaie d'incarner au mieux les affres de la colère et de l'inquiétude, mais étant donné qu'il se retrouve face à Franck Gastambide et Anna Girardot, ben, on a plus l'impression de voir des scènes estivales coupées des balles perdues déjà produites par Netflix, ben, qu'un héritage de Clouseau. Alors ce qui est d'autant plus étonnant, hein, c'est que Netflix sort quelque part en catimini cette coprode, hein, avec TF1, comme si elle en avait honte. Hein, et vu le résultat, ben, on préfère se rappeler le remake officieux du Salaire de la peur fait en 2002 par Louis-Pascal Couvelaire, hein, qui portait le nom de Sueur. Alors, injustement éreinté par la critique à l'époque, hein, et ce malgré quelques gros défauts, hein, il faut être honnête, il avait au moins pour lui d'avoir un vrai point de vue esthétique sur ce qu'il filmait et d'utiliser des techniques héritées, hein, de la publicité pour nous faire vivre cette folie rampante, bah, qui s'empare des hommes et les rend fous, hein, sous un soleil qui n'autorise aucun répit. Alors, rappelons que Beaujouong cite très régulièrement le Salaire de la peur comme étant un de ses traumatisme, hein, de cinéphilique. Je pense que la version de 2024, il a dû peut-être l'avoir sur son téléphone aux toilettes.
Mmh. Ah, non, il l'a pas vu. Je pense.
J'espère pas.
Non, je pense qu'il l'a pas vu. En tout cas, moi, c'est, j'avoue que c'est un film que j'ai voulu le tenter quand même, même si j'avais de vieux souvenirs de la version de Clouseau. Et j'avoue que les acteurs, c'est très dérangeant parce qu'il y en a aucun qui rattrape l'autre. Enfin, je trouve que ils sont pas mis en scène. Enfin, rien ne va. Le scénario, j'ai trouvé quelques incohérences, mais dont une flagrante. J'ai trouvé que rien n'allait et je me suis dit, mais c'est très bien que ça se retrouve sur une plateforme, sur Netflix, et que ça se retrouve pas au cinéma parce que même l'image est moche. Enfin, il y a quelque chose de vraiment très laid.
Oui, on sent un renoncement assez monstrueux. Hein.
Voilà, donc c'est. Et le pire, je pense, ce qu'on peut retenir, et c'est ce que j'ai entendu de la part de certaines personnes, c'est finalement de s'associer. Alors, on peut faire un remake, mais on n'est pas obligé de reprendre le même titre. Alors que là, en prenant le même titre, forcément, on essaie de comparer. Enfin, voilà. Et donc là, ça tient pas 5 minutes.
Là, c'est pour ça que j'ai rappelé que Sueur existait, parce que malgré les défauts qui lui ont valu une descente en flèche il y a 22 ans dans la presse, honnêtement, ça a beaucoup plus de gueule, hein, dans son traitement que cette version vraiment officielle, quoi.
Alors bon, quitte à choisir la VOD, choisissez un autre film que ce Salaire de la peur version 2024. Et de 4 pour les aventures de Kung Fu Panda, que Manu ne rate jamais.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama, c'est un passe-temps surprenant.
Quand je posséderai le kung-fu des plus grands méchants, personne n'osera douter de mon pouvoir.
Faut-il se souvenir des opus précédents pour apprécier pleinement les nouvelles aventures du panda préféré des enfants ? Alors personnellement, hein, je n'ai pas vu le 3 et le souvenir des deux autres, sortis respectivement en 2005 et 2011, est diffus. Alors je dois avouer que je ne me rappelle pratiquement de rien, hormis le plaisir de les avoir vus avec mon fils. Allais-je revivre la terrible expérience récente de Dune où, n'ayant pas revu la première partie un peu par flemme, j'ai galéré à accrocher les wagons du ver de terre et des aventures de l'élu. Alors rassurez-vous, hein, petits et grands, c'est-à-dire les enfants et surtout leurs parents, hein, Kung Fu Panda 4 est limpide, même si une petite connaissance de l'univers reste un atout non négligeable, hein, sans mettre à l'amende les novices en Kung Fu et en Panda.
J'y connais quoi en guidage spirituel, sérieux ?
Que tiens-tu dans la main ?
Un cookie ?
Ah. Tu as été choisi pour être bien plus que ce que tu es déjà.
Alors on retrouve Po, le guerrier dragon panda, après avoir combattu précédemment les maîtres du mal les plus redoutables, hein, il est invité à laisser ses exploits de côté pour devenir le chef spirituel de la Vallée de la Paix. Alors ce qui n'enchante guère la gentille peluche qui a tout donné pour devenir un as des arts martiaux dans le premier. Alors pour cela, il doit trouver un remplaçant en tant que guerrier dragon qu'il doit initier et entraîner. Bon, cette passation peut attendre car le mal rôde à nouveau. La diabolique caméléone, hein, une lézarde minuscule capable de prendre n'importe quelle apparence et taille, souhaite s'emparer du bâton de la sagesse de Po et ainsi invoquer le royaume des esprits pour aspirer tous les pouvoirs des maîtres maléfiques vaincus auparavant. Po, aidé d'une renarde espiègle, Zen part à la rencontre de la vilaine reptile afin de protéger la vallée de la paix. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais à l'écran, du moins, c'est très limpide pour tout le monde. Bien sûr, Kung Fu Panda 4, réalisé par un spécialiste de l'animation, hein, Mike Mitchell, hein, à qui l'on doit notamment Shrek 4 ou encore les Trolls, est un pur produit industriel, sans surprise et débordement, mais qui remplit son contrat, à savoir celui de divertir, avec un récit haletant, une avalanche de gags et de bons mots souvent drôles, et une animation virevoltante qui a atteint une indéniable virtuosité lors des séquences d'action. Les ficelles sont grosses, les rebondissements ne surprendront que les plus jeunes. Cependant, inutile de bouder son plaisir, voilà un film d'animation souvent jubilatoire, qui dure moins de 2 heures, largement plus recommandable que la plupart des Marvel récents, et qui parvient donc également à donner du relief à des personnages animés attachants. Et mention spéciale pour les gentils petits lapins qui ne jurent que par le sang et la violence. Et ça, ça m'a plu.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine. Moi, je vous parlerai de Nul et le Roi et puis de Ghostbusters, la suite. Et toi, Guillaume ?
Moi, je vais vous amener sur le chemin étonnant des femmes poilues avec Rosalie.
Oui, les femmes, oui, poilues barbues. Et toi, Sophia ?
Du côté du Brésil, on va s'intéresser à Sans Cœur.
À la semaine prochaine.
Vous avez un emploi, monsieur Lebowski ?
Permettez-moi de remettre les pendules à l'heure. Je ne suis pas monsieur Lebowski. C'est vous, monsieur Lebowski. Moi, je suis le duc. C'est comme ça qu'il faut m'appeler. Ou alors, le grand-duc, ou l'archiduc, ou votre Altesse, si vous êtes porté sur les titres.
Avez-vous un emploi, monsieur ?
This is Cinerama.